à l'ombre de la littérature. Rencontre avec les personnes détenues du centre pénitentiaire de Laon. Je voulais parler littérature parce que la littérature, c'est quand même étrange. C'est pourquoi faire ? Ça sert à quoi de lire ? Pourquoi se mettre à l'écart, s'extraire temporairement ? Est-ce que c'est un outil ? Un outil pour se comprendre ? Pour comprendre le monde, son rapport au monde ? Est-ce qu'il faut nécessairement passer par le regard de quelqu'un d'autre pour mieux comprendre ce qu'on fait là ?
Est-ce qu'on est seul quand on lit ?
Est-ce qu'on est seul ouais, quand le livre est... Moi, quand le livre me prend, le temps passe à une vitesse folle, et ouais, on est seul avec l'auteur, quoi. Ouais, c'est des moments de... Ici, voilà, ça nous sort un peu du quotidien, de ce quotidien qui est... Est-ce que certains veulent laisser entendre, on est loin du Club Med, donc voilà. Et encore que là, moi j'ai eu la chance de tout être seul en cellule. Alors j'imagine quand il y a des mecs qui sont 3-4, là, ça doit être impossible à lire, ça doit être invivable, parce qu'évidemment, dans une pièce de 9 mètres carrés, si vous êtes 3, c'est un peu compliqué de lire, quoi. Moi j'ai eu cette chance-là. Alors après, il y a des bruits extérieurs, hein. Mais des boules de caisse, et puis c'est bon, on est parti, on lit. Voilà.
Ils en parlent un tout petit peu de la privation de liberté. Et effectivement, il y a toutes les complexités du monde carcéral, toutes les violences, mais... Il parle de cette privation de liberté comme quelque chose qui, de toute façon, prime sur tout et rend fou. Et est invivable, en fait, est inhumain.
La prison, c'est quelque chose qui nous donne une sensation de perdre son temps. Et quand on meuble la perte de temps par quelque chose de constructif et de structuré, des fois, en fin de journée, en fin de semaine, en fin de mois, on a moins l'impression d'avoir perdu son temps. Ça, c'est important parce que la lecture, c'est quelque chose qui demande de la concentration et du temps.
Il n'y a rien de bon à savoir. La prison devient ta maison. La cellule, une catacombe qui encage et le métronome comptant les années qui t'éclipsent. Il n'y a pas de nom pour ce que tu es devenu. Condamné, prisonnier, détenu, longue peine... Tolard, tout s'échoue. Si tu ne peux être libre, sois un mystère, un amnésique. Reginald Wayne Betts, La maison de l'infinitude.
Et surtout que là, on parle de perdre notre temps, mais justement, là, le scolaire, il a lancé, je pense que tu as vu, la dissertation philosophique.
Oui, je l'avais fait l'année dernière. Ouais.
Le sujet, c'est justement, peut-on perdre son temps ? J'ai essayé de le faire. La dernière fois, j'ai fait, mais c'était la première fois que je faisais une dissertation.
Alors, moi, j'ai une licence de philosophie, donc j'ai passé une licence de philosophie, une licence d'histoire, et j'ai eu Bergson. Bergson, c'est le philosophe par lui-même, c'est ce qu'on appelle le philosophe du temps. Et selon Bergson, le temps n'a de valeur effective de passé que si on le perd. Le temps, si on en fait quelque chose, si on construit quelque chose, si on vit quelque chose, un amour, une passion, quoi que ce soit, on ne le perd pas. Il n'existe pas. Là, c'est pareil. C'est du Bergson.
Le propre du temps est de s'écouler. Le temps déjà écoulé est le passé, et nous appelons présent l'instant où il s'écoule. Mais il ne peut être question ici d'un instant mathématique. Sans doute il y a un présent idéal, purement conçu, limite indivisible qui séparerait le passé de l'avenir. Mais le présent réel, concret, vécu, celui dont je parle quand je parle de ma perception présente, celui-là occupe nécessairement une durée. Où est donc située cette durée? Est-ce en deçà, est-ce au-delà du point mathématique que je détermine idéalement quand je pense à l'instant présent? Il est trop évident qu'elle est en deçà et au-delà tout à la fois, et que ce que j'appelle mon présent empiète tout à la fois sur mon passé et sur mon avenir. Mon présent est donc à la fois sensation et mouvement, Et puisque mon présent forme un tout indivisé, ce mouvement doit tenir à cette sensation, la prolonger en action. Henri Bergson, Matière et mémoire.
J'ai essayé de me protéger beaucoup pour me raccrocher absolument à leurs paroles et pas trop à mes sensations. Mais par exemple, on avait un chemin à faire de l'entrée de la prison jusqu'à cette petite bibliothèque. Et je peux pas dire que je suis quelqu'un qui me perde. Enfin, je retiens les chemins. Enfin, j'ai l'habitude dans les théâtres d'arriver dans un théâtre et de faire une fois le chemin et de savoir comment on va. C'est vraiment, j'ai un entraînement. Je ne pouvais pas retrouver cette bibliothèque. Je ne pouvais pas. Donc c'est là où je me dis, oui, j'ai dû me protéger sacrément parce que je ne pouvais pas retenir le chemin. Il fallait tourner une fois à droite, tourner une fois à gauche. Hein. On est vraiment sur... C'est vraiment niveau CP, hein. C'est flocon. On est vraiment sur du flocon. Et impossible. Impossible de... J'étais perdue, comme si je ne voulais pas lire cette prison, comme si je ne voulais pas la comprendre. C'est plus quelque chose d'étrange que quelque chose de très oppressant, en fait. Mais encore une fois, je pense que je me suis protégée parce que c'est très violent.
Est-ce qu'il y avait des livres chez vous ?
Oui, beaucoup.
C'est vrai ?
Ouais.
Oui.
Oui, oui, moi je suis du. Mon père était directeur d'école. Donc...
D'accord.
Ah oui, les chiens font pas des chats.
Ok.
Mon père était directeur d'école.
Je viens d'une famille très. De lecteurs.
Le livre a toujours été là.
Tout le temps, ouais, tout le temps. Depuis je suis tout petit.
Et les premiers souvenirs, enfin, livre.
Les bibliothèques vertes, le Club des Cinq. Après, la science-fiction Asimov, Barjavel. Les trucs classiques, quoi. Quelques classiques, beaucoup de Zola, j'adorais Zola très jeune. J'aime beaucoup Zola, depuis que je suis tout petit. Après London, tout ce qui est évasion, tout ce qui est un peu nature.
Ah, j'ai toujours lu depuis l'enfance, j'ai toujours lu. Après, voilà, après quand j'ai fait. Après le fait d'avoir fait, j'ai fait pas mal d'années de prison, donc le fait d'avoir fait, ça m'a. Voilà, c'est un amour propice pour lire, malheureusement. Alors c'est pas toujours facile quand on est. Moi j'ai souvent été seul en cellule, donc j'ai eu la possibilité de lire beaucoup. Et ça permet de voyager. Alors surtout dans les conditions. Les conditions carcérales, hein, ça permet de sortir un peu, bon, parce que. Le top, quoi. Ça permet de penser à autre chose, ça me fait voyager, ça me fait travailler l'imaginaire. Et alors peut-être après le fait d'être enfermé, c'est un moyen de s'évader légalement, on va dire. Donc voilà, c'est une invasion qui n'est pas condamnable, donc on en profite, hein, tout ce qui n'est pas. Ça m'a, en fait, dans le mal, dans le mal de la prison, j'ai pensé qu'il fallait en profiter pour en tirer quelque chose. Et j'ai toujours beaucoup lu, mais je lisais même jeune, tout jeune, je lisais. Ça commence par les bandes dessinées, les romans, Pagnol, tout ça. Ça m'a toujours plu. Mais ouais, mais c'est je prends beaucoup de plaisir à lire.
Barthélémy parle. D'un de ses premiers souvenirs de lecture avec Pagnol. Et en fait, moi aussi, c'était un auteur que j'ai lu enfant, et c'était des lectures extrêmement marquantes. Je me souviens vraiment de l'intensité dans laquelle me mettaient ces évocations de la nature, de la lumière, des odeurs. Et ça a été très, très marquant comme sensation de lecture, parce qu'en même temps, ça me mettait en joie, et en même temps, c'était une vraie douleur de ne pas le vivre, d'être témoin, et en même temps, d'être autant chargé de cette joie que j'avais pas. La nature me manquait énormément. Et en fait, Pagnol mettait le doigt sur ce manque. C'était un rapport presque érotique
à ces sensations qu'il évoquait. Nous escaladâmes deux cheminées tandis que le ciel devenait crépusculaire. Comme nous arrivions sur l'épaule du pic, je vis s'avancer un immense rideau violet qu'un éclair rouge déchira brusquement, mais sans bruit. Nous franchîmes une troisième cheminée qui était presque verticale et nous arrivâmes sur l'avant-dernière terrasse que surmontait de quelques mètres le plateau terminal. Dans la barre, à 50 pas de nous, s'ouvrait au ras du sol une crevasse triangulaire dont la base n'avait pas un mètre de large. Nous y entrâmes. Cette sorte de grotte qui s'élargissait au départ devenait plus étroite en s'enfonçant dans la roche et la nuit. Rassemblant quelques pierres plates, Lily installa une sorte de banquette face au paysage. Puis, il mit ses mains en porte-voix et cria vers les nuages « Maintenant, ça peut commencer !» Des nuages violets passaient sur nos têtes et la lumière bleuâtre baissait de minute en minute comme celle d'une lampe qui meurt. Je n'avais pas peur, mais je sentais une inquiétude étrange, une angoisse profonde, animale. Les parfums de la colline et surtout celui des lavandes étaient devenus des odeurs et montaient du sol, presque invisibles. Marcel Pagnol, le château de ma mère.
Les premiers livres dont je me souviens, ça s'appelait Sylvain et Sylvette. C'était une bande dessinée avec deux enfants qui vivaient à la campagne et qui avaient des aventures, parce que dans la forêt, il y avait le loup, le renard, un ours et puis d'autres animaux. Mais bon, c'était pour des gamins de 6-7 ans, quoi. C'était intéressant. Mais j'ai lu tout le temps. Après, j'ai lu un peu plus tard Pif Gadget. C'était très bien, ça. Parce qu'il y avait des tas d'auteurs différents qui écrivaient là-dedans. Et ça donnait des sujets toujours différents. Il y avait Rahan, par exemple, la préhistoire et tout. C'était magnifique. Et puis, j'ai lu comme ça. Mes parents avaient une bibliothèque avec pas mal de livres. Alors, des livres ordinaires, pas des grands romans, comme on dit. Mais bon, c'était... Il y avait la collection qui s'appelait Reader's Digest. C'était des extraits assez importants de plusieurs livres. Et donc tous les mois, tous les trois mois, on recevait un livre avec quatre nouveaux romans en résumé. Et j'ai lu tout ça, j'ai lu aussi des livres. Mon père lisait beaucoup de romans policiers. Je me rappelle, il y avait un dictionnaire, un petit dictionnaire pour les enfants. C'est un petit Larousse. Et ce qui était formidable, c'est quand on l'ouvrait, on avait les drapeaux de tous les pays. Rien que ça, déjà, ça donne une envie d'aller plus loin, de lire. Puis de temps en temps, je l'ouvrais, je regardais les mots, j'en lisais d'autres. Donc, j'en ai lu des livres. Alors, qu'est-ce qui m'a vraiment frappé il y a longtemps, Le Roi Vert. C'était Sulitzer qui avait écrit ça. C'était un des premiers. C'était magnifique, ce roman. C'était l'histoire d'un gars qui va créer un pays. C'était pas mal.
J'ai cherché jusqu'ici comment je pourrais comparer la prison où je vis avec le monde. Mais comme le monde est populeux et qu'ici il n'y a d'autres créatures que moi, je n'ai pas trouvé moyen. Pourtant, forgeons ce rapprochement. Je considère ma cervelle comme la femelle de mon esprit. Mon esprit est le père, et à eux deux, ils procréent une génération de pensées qui pullulent et qui peuplent ce microcosme de fantaisies sombres, comme les populations de ce monde. Car aucune pensée ne contient la satisfaction. Les pensées qui tendent à l'ambition complotent d'inexécutables miracles. Elles cherchent comment ces faibles ongles pourraient creuser un passage à travers les flancs de pierre de ce dur monde, les murs de ma sordide prison. Et comme c'est impossible, elles expirent dans leur propre vanité. Shakespeare, Richard II.
Moi, c'est particulier parce que pour des problèmes d'enfant, j'ai été placé très jeune, donc ça fait que j'ai fait des foyers. Donc j'ai perdu la lecture de vue pendant pratiquement 15 ans. De l'âge de 15 ans à 30 ans, j'ai quasiment pas lu. J'ai lu de 10 à 15, La Découverte, j'ai toujours aimé ça. J'ai quasiment pas lu pendant 10 ans, de 15 à 25 ans, j'ai quasiment pas lu. Et là, après, j'ai rencontré, j'avais une visiteuse de prison qui m'a complètement remis dedans. qui elle était complètement une... Déjà, elle venait me voir toutes les semaines, j'étais sur une période longue, sur une détention longue. Et elle m'apportait 2-3 livres par semaine. Et non seulement elle me les faisait lire, mais elle me questionnait dessus. Donc ça fait que j'ai... Elle m'a plus ouvert sur l'espèce de... C'est-à-dire qu'avant, je lisais soit de la science-fiction, soit des livres d'histoire, soit des polars. Mmh. Et là, elle m'a fait lire n'importe tout. Je me suis mis à lire tout.
Oui, il n'y a pas photo. Moi, c'est le livre qui m'a le plus... que j'ai adoré lire, et qui m'a le plus marqué, c'est Candide ou l'optimisme de Voltaire. Oui. Parce que dedans, en fait, il explore plein de problèmes qu'on a dans la société humaine. Il met une pointe d'humour dedans, mais il n'hésite pas parfois à mettre... En fait, il tape là où ça fait mal, Voltaire. Mais c'est ici que... Voltaire, je connaissais déjà son nom dehors, mais c'est tout. Mm. Je connaissais juste une citation qu'on lui prête, qui est... Je ne défends pas... Je ne suis pas d'accord avec vos idées, mais je me battrai pour que vous puissiez les avoir. Ça, j'adore ce truc-là. Et en fait, ici, dans son livre, il fait souvent référence déjà à l'esclavage, il était contre l'esclavage. C'était quelqu'un de très humaniste aussi, le fanatisme religieux. Il détestait le fanatisme religieux, et pourtant à l'époque, on était quand même au XVIIIe siècle, ça avait toujours cours, le fanatisme religieux. Les gens, ils étaient toujours brûlés, justement, ils étaient toujours brûlés pour simplement penser autre chose. Remettre en cause les dogmes religieux. Et je sais que, par exemple, la dernière personne à avoir été brûlée comme ça, c'est un certain chevalier de la Barre, quelque chose comme ça, qui a été brûlé à 20 ans. Et ça a écœuré Voltaire à tel point qu'il en a fait un... Il a écrit des articles dessus, et ça a contribué à mettre fin à l'absolutisme en France. Et je me retrouve beaucoup dans ce qu'il pense.
Oh ben c'est vrai que c'est très critique, hein, quand on lit chacun de ses romans, Candide, Zadig...
Oui, c'est ça, il expose les problèmes de la société de l'époque, et oui, il n'hésite pas à bien taper là où ça fait mal. Quitte à finir en prison, il a été à la Bastille pendant un moment. Ouais.
À l'ombre de la littérature. Rencontre avec les personnes détenues du centre pénitentiaire de Laon. Un podcast de Bénédicte Cerruti. Un immense merci à toutes les personnes détenues du centre pénitentiaire de Laon et à toutes les personnes qui ont participé aux délibérations du concours des détenus. Jean-Paul, Barthélémy, Antoine, Hélène, Emmanuel, Didier, Patrick, Frédéric, Aldric, Jean-Louis, Christelle, Thierry, Nathan, Margot, Mathieu, Leïla, Abdelaziz. Un grand merci à François et à Stéphane pour avoir rendu possible ces rencontres et pour leur chaleureux accueil. Un grand merci aussi à Hugo Zanin. À l'ombre de la littérature, un podcast de Bénédicte Cerruti. Réalisation, Martin Kénéen. À l'Est, une série d'enquêtes radiophoniques menée par les artistes de la Comédie de Reims dans la région Grand Est. À retrouver sur la plateforme de votre choix et sur ecomedie.fr.